Radio Okapi. Pascal Mafika pour les journaux.
Les titres du journal au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale menace d'arrêter ceux qui tenteraient de manifester pour réclamer l'alternance au pouvoir en RDC. La société civile, qui ne l'entend pas de cette oreille, maintient son mot d'ordre de sit-in demain mercredi. En Ituri, un soldat a été tué dans une embuscade tendue par la FRPI hier soir à Singo, au sud de Bounia. Selon le porte-parole des FARDC dans la région, c'est le 9e soldat des FARDC tué par ses miliciens dans les mêmes circonstances en l'espace des mois. Et puis le GPREM vient de souffler sur ses 37 bougies d'anniversaire, un événement placé sous les signes de l'investissement et le redressement de l'entreprise qui sort de la crise. Le DG Patient Saïba est l'invité de Radio Okapi ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, la société civile demande au commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale de retirer ses propos menaçant les organisateurs du sit-in prévu demain mercredi à Goma. Pour mémoire, au cours d'une parade organisée lundi à Goma, le général Placide Nyembo a rappelé que la rue appartenait à l'État congolais et ceux qui tenteraient de troubler l'ordre public seraient arrêtés. Les organisations de la société civile de Goma maintiennent de tenir leur manifestation demain. Reportage à Goma de Gisèle Cage.
Lors de la parade d'hier à Goma, le commissaire divisionnaire adjoint de la police au Nord Kivu n'a pas lésiné sur les mots. Le général Placide Nyembo a demandé aux policiers, je cite, de prendre en charge tous les inciviques, tous les hommes forts qui sortiront pour manifester, soulignant en Lingala qu'il voudrait voir des actions fortes contre eux. S'il y a trouble à l'ordre public, ils seront arrêtés, a-t-il encore indiqué. Une réaction qui choque plusieurs organisations de droits de l'homme, y compris la société civile du Nord Kivu. Réaction de son président Thomas Dakin.
Notre position, c'est de ramener le général à la raison. C'est un officier qui a été formé, pas pour traquer, pas pour tuer. Il est allé très loin, il a exagéré. Il n'y a personne qui souhaite qu'il y ait des manifestations violentes en ville. Il qualifie tout le monde d'incivique. C'est exagéré. En tant que partenaire à ce général, je lui demande tout simplement de retirer certains de ses propos et de revenir à la raison.
La Lucha, qui fait partie du collectif des associations de la société civile, organisateur des sit-in de ce mercredi à Goma, dit qu'elle ne se laissera pas intimider. Elle sera dans la rue Dutel pour demander le départ des dirigeants actuels et l'annulation du calendrier électoral qui ne répond pas aux attentes de la population. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
À propos justement des manifestations qui sont prévues demain mercredi en RDC, la MONUSCO exhorte les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales stipulées dans la constitution du pays. Dans un communiqué publié ce mardi ici à Kinshasa, la mission onusienne exhorte le gouvernement central à instruire les forces de défense et de sécurité au respect des principes de nécessité, de proportionnalité et légalité selon les normes internationales. La MONUSCO rappelle également aux Congolais que le droit de manifester implique de s'abstenir de recourir à la violence sous toutes ses formes. D'autres précisions avec la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal, et jointe par Suzanne Zobondra.
La MONUSCO ne craint pas une recrudescence ou des violences, mais la MONUSCO souhaite faire de la prévention. Elle souhaite que l'esprit de consensus qui avait prévalu lors de la signature des accords du 31 décembre 2016 puisse perdurer et que justement cet accord et notamment les mesures de confiance puissent être mises en œuvre. Donc la MONUSCO est engagée résolument pour le dialogue et pour la résolution des différends dans le calme et de façon pacifique.
Et puis, le président du rassemblement de l'opposition appelle le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour obtenir l'alternance à la tête de la République démocratique du Congo. Appel lancé ce mardi ici à Kinshasa au cours d'un point de presse de cette plateforme. Félix Tshisekedi Tshilombo dit soutenir l'appel à la ville morte lancé par les mouvements citoyens demain mercredi en RDC. Il est au micro de Paul Matendo.
Le rassemblement soutient toutes les actions qui vont aller dans le sens
d'appeler notre peuple à barrer la route conformément à l'article 64 de notre Constitution à cet individu ou ce groupe d'individus qui aujourd'hui ont pris le Congo en otage et veulent nous imposer une dictature, dictature longtemps combattue dans ce pays. Nous sommes là pour lancer un appel à notre peuple d'adhérer massivement à la ville morte qui est décrétée plutôt demain par les mouvements citoyens, Lucha, Filimbi et bien d'autres.
Tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé sans pitié, affirme le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa. Toujours selon lui, la répression sur les manifestations annoncées par le mouvement citoyen pour demain mercredi se fera sans pitié. Réagissant ainsi au communiqué de la MONUSCO, le général Silvano Kasongo déclare, je le cite, le Congo ne dépend de la MONUSCO. La RDC est un pays souverain. La police nationale dépend des autorités politico-administratives et non de la MONUSCO. Fin de citation. Et d'ajouter, je le cite, nous respectons les instructions du gouverneur qui nous a donné ordre de disperser toutes les manifestations de demain. Fin de citation. Et puis, près de 50 ONG de la société civile disent non au projet de loi modifiant la loi du 2001 applicable aux associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique. Elles l'ont exprimé aujourd'hui à la fin d'une matinée de réflexion consacrée à ce projet de loi. D'après les responsables de plusieurs actions de la société civile, ce projet de loi viole la constitution du pays et n'accorde pas la liberté à leur organisation de contribuer au développement du pays. Rigaud Genet, secrétaire général du Conseil national des organisations de la société civile, est au micro d'Askin Zibataï.
Nous, organisation de la société civile, nous disons non à un projet de loi liberticide, mal motivé. La liberté d'association est consacrée par la constitution de la RD Congo. Nous accorde le droit à la participation, à la gouvernance publique en tant qu'acteur de la société civile. Parce que nous apportons une contribution au développement du pays. Mais la loi telle que libellée ne fait même pas allusion à la contribution de ce qu'on apporte. Les projets, déjà dans l'exposé des motifs, les motivations sont mauvaises. On dit pour lutter contre la prolifération. Mais on ne dit pas c'est quoi la prolifération, ça se passe comment. Si nous disons aujourd'hui que la RD Congo compte 10 000 organisations de la société civile, sur les 10 000, combien pose problème? Si sur les 10 000, c'est une dizaine qui pose problème, est-ce que vraiment on peut légiférer sur une exception? Nous dénonçons et condamnons avec véhémence ce projet de loi. Nous invitons le président de la République, nous l'invitons à barrer la route à un tel projet et nous invitons le Parlement à abandonner ce projet de loi. Sinon, il sera dénoncé comme complice dans la liquidation programmée de la société civile. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Le gouvernement n'a qu'à retirer son projet.
Et puis l'Organisation internationale de la francophonie soutient le contrôle du processus électoral en RDC. À l'issue d'un séjour de 4 jours ici à Kinshasa, le chef de la mission d'information et de contact de l'OIF insiste sur la nécessité d'un accompagnement du processus électoral renforcé et coordonné par la communauté internationale. Pascal Couchepin, envoyé spécial de la secrétaire générale de l'OIF pour la région des Grands Lacs, plaide pour la mise en œuvre rigoureuse du processus électoral et du calendrier qui a été publié il y a 2 semaines à Kinshasa. Jeff Ngoy.
Dans un communiqué du lundi 12 novembre consacrant la fin de la mission d'information et de contact en RDC par sa délégation, l'Organisation internationale de la francophonie insiste sur le respect du calendrier électoral de la CENI. Dans cet esprit, elle recommande la mise en place effective d'une équipe conjointe d'experts internationaux en appui au processus électoral. Elle invite toutes les parties prenantes à adhérer à ce mécanisme. Cette équipe devrait permettre de faciliter la mise en œuvre et le suivi d'un chronogramme concerté et transparent dans le respect des prérogatives constitutionnelles de la CENI. Ainsi, l'OIF exhorte la CENI à élaborer dans les meilleurs délais un chronogramme et un budget détaillé de ce processus. La mission note l'impérieuse nécessité d'intensifier les efforts engagés en vue d'apaiser le contexte politique et sécuritaire congolais.
Voilà qui nous amène maintenant dans la province de l'Ituri où un soldat des FRDC a été tué par des miliciens de la FRPI hier soir à Singo, localité située à 50 km au sud de Bunia. Selon des sources locales, ce militaire s'est rendu à son poste de travail lorsqu'il est tombé dans une embuscade de l'ennemi. Le porte-parole des FRDC dans la région parle de 9 soldats déjà tués par ces miliciens dans les mêmes circonstances en l'espace de mois. Le récit de Martial Kizabiamungu.
C'est vers 17h local, le pièce militaire des 3001e régiment basé à Marabout est tombé dans une embuscade de deux miliciens du FRPI à Singo dans les groupements Baviba. Selon des témoins, ces miliciens lui ont d'abord demandé de s'arrêter en faisant des tirs de sommation. C'est à quoi le militaire n'a pas obtempéré. Il s'en est suivi, selon les mêmes témoins, un échange de tirs entre lui et le milicien. Quelques minutes après, il a été tué et son arme a été récupérée par ses meurtriers qui se sont ensuite retranchés dans la brousse. Information confirmée par les porte-parole des forces. En Ituri, le capitaine Carlos Calombo condamne ce énième assassinat des soldats FRDC. Selon lui, les miliciens se cachent dans des maisons de certains habitants qui ne les dénoncent pas auprès de l'armée. Pour cette dernière, il est clair que ces éléments sont la cible de miliciens. Signalons cependant que plusieurs initiatives locales sont en cours pour tenter de résoudre pacifiquement les conflits armés dans la collectivité de Walindoubindi, aucune jusque-là n'a produit des résultats durables. Bounia, Martial Kiza, Diamungu, Radio Okapi.
Lancement hier lundi de la session spéciale de l'examen national de fin d'études primaires et de l'examen d'État dans la sous-division de Tchikapa 1 dans les zones touchées par le phénomène Kamouenasapou. La cérémonie a été présidée par le gouverneur Marc Manyanga. Pour en parler, retrouvons à Kananga François Kadima.
92 centres d'examen d'État ont été ouverts pour 16 500 élèves finalistes du primaire, a indiqué la directrice provinciale de l'EPSP au Kassai, Wivine Moudé-Koko. Pour les secondaires, rapporte la même source, 12 centres sont opérationnels pour 3 600 candidats à l'examen d'État. Déplorant les difficultés rencontrées dans l'organisation matérielle de ces épreuves, Wivine Moudé-Koko appelle à l'implication de toutes les couches du Kassai pour leur réussite. Lors du lancement de cette session spéciale, le gouverneur du Kassai a décidé de payer les frais de participation de tous les finalistes du primaire. Un geste qui, selon Marc Manyanga, permet de soulager la souffrance des parents de sa province pendant les événements liés au phénomène Kamouenasapou. Les zones concernées par ces épreuves sont entre autres Kamounia, Lunyeka, Kamosha, Kalunda et Luebo. La MONUSCO appuie l'organisation de ces examens et a assuré les transports des copies des épreuves à Tchikapa. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite aujourd'hui à Bonn, en Allemagne, de la troisième conférence sur les climats. Autour d'une même table, les délégués de 196 partis engagés à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les chefs de délégation ont validé aujourd'hui le travail des experts. De Bonn, notre envoyé spécial, Nunungo Isanza.
Les négociations sur le climat se poursuivent ici à Bonn. D'après les chefs de délégation, la semaine qui commence n'est pas celle des discours. Tous les délégués doivent retourner dans leur pays avec une feuille de route claire par rapport à la mise en œuvre de l'accord de Paris l'année prochaine. Les experts de la RDC soulignent que la réponse sur les financements n'a toujours pas trouvé de réponse claire. Cela surtout, entre autres, à cause de l'annonce du retrait des États-Unis des accords de Paris. Ce pays est connu comme un grand pollueur et en même temps un grand bailleur de fonds par rapport aux engagements pris lors de la COP21 à Paris. Autre chose, la RDC sait qu'elle va bénéficier des fonds pour les mesures d'adaptation, mais quel sera le montant global de son enveloppe pour les trois principaux axes retenus, à savoir l'agriculture, les énergies renouvelables et le secteur des forêts. Ces questions trouveront sans doute de réponse ce mercredi à la réunion de haut niveau qui se tiendra à Boulazone. Pour rappel, la COP23 est organisée par les îles Fidji, un état insulaire qui fait face aux effets néfastes du changement climatique. Depuis Bonn, Nunungo Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, un an s'est déjà écoulé depuis que Radio Okapi a lancé le décrochage local de ses émissions dans la ville de Beni et ses environs. Quel est l'apport de ce média des Nations Unies dans cette partie du Nord Kivu? La réponse de certains auditeurs au micro de Sekombi Katondolo.
Mon point de vue, d'abord je vais commencer par souhaiter un bon anniversaire à la Radio Okapi et à tous ces animateurs en ville de Beni. Depuis que la radio est implantée à Beni, il y a des avancées significatives par rapport aux demandes de la population, puisque la population a toujours besoin d'être informée au temps opportun, et c'est la radio qui est toujours permanente et à côté de la population.
On trouve que la radio Capi nous a aidés parce que tout ce qui se passait à Beni, on commençait à croire que la radio Capi à Kinshasa ne pensait pas qu'il y avait aussi des gens qui pouvaient intervenir à Beni. Donc, au moins, c'est une radio professionnelle. Une petite gestion, c'est que la radio Capi doit nous fournir des efforts à ce que à travers le poste local qui est à Beni, qu'on puisse accepter qu'il y ait aussi des intervenants dans d'autres émissions qui passent sur la chaîne nationale.
Bon, la radio Capi nous aide à beaucoup de choses, elle nous informe, mais toutefois je vais dire qu'elle n'a pas assez de émissions pour aider la population locale de Beni. Il faut encore qu'elle élargisse beaucoup d'émissions pour aider la population de Beni. Avant tout, je suis une femme. Comme si je vais dire c'est-à-dire qu'il faut aussi programmer les émissions de femmes.
Actualité Afrique Monde.
L'actualité de l'étranger maintenant. Commençons par le Zimbabwe où un convoi de plusieurs chars était visible ce mardi après-midi sur une des artères principales des environs de la capitale zimbabwéenne, Harare. C'était au lendemain d'une mise en garde sans précédent du chef de l'armée du pays à l'encontre du président Robert Mugabe. La raison de la présence de ce convoi militaire n'était pas claire dans l'immédiat. Dans une mise en garde sans précédent, le chef de l'armée du Zimbabwe, le général Constantino Chiwenga, a dénoncé hier lundi après-midi l'éviction la semaine dernière du vice-président du pays et prévenu que l'armée du pays pourrait intervenir au plus vite si la purge ne cessait pas au sein du parti présidentiel, la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. Les civils centrafricains, souvent pris pour cible dans les actes de violence, doivent être protégés et la mission des Nations Unies en Centrafrique MINUSCA renforcée pour éviter que le pays ne retombe dans la guerre civile. C'est un appel lancé par l'ONG Norwegian Refugees Council dans un communiqué publié ce mardi après-midi. 28 organisations de la société civile du pays avaient déjà lancé le 6 novembre dernier un appel à plus de troupes pour la MINUSCA, dont le renouvellement du mandat doit être examiné demain mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. La MINUSCA est déployée depuis 2014 et le renouvellement de son mandat vise, outre une augmentation de ses contingents, 900 militaires supplémentaires à les rendre plus flexibles et mobiles pour contrer les menaces et les atteintes à la paix. Et puis au Togo, l'opposition a qualifié ce mardi de déclaration de guerre les récents propos tenus par le président Faure Gnassingbé, accusant ses détracteurs d'être responsables des actes de violence, des manifestations de ces derniers mois, et a réclamé en même temps une enquête internationale sur les crimes qui se produisent au pays. Les leaders d'une coalition des 14 partis politiques ont accusé le chef de l'État d'avoir déclaré la guerre au peuple togolais avec l'intention de semer des germes de la division et de la haine dans le but de dresser l'armée contre le peuple. Ils ont dénoncé également le caractère irresponsable, belliqueux et antipatriotique de ces propos lors d'une conférence de presse tenue à Lomé. Place au dossier de Radio Okapi. En Ituri, la plupart des malades de diabète fréquentent quotidiennement des tradipraticiens au lieu d'aller à l'hôpital. Le constat a été fait par le médecin directeur de l'hôpital général de Bounia à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée ce mardi. Il affirme que certains malades arrivent aux soins de santé en retard et dans un état critique, ce qui rend difficile leur prise en charge médicale. Un dossier de Jean-Claude Lekidile.
La journée mondiale du diabète est célébrée par plusieurs organisations à travers le monde. Cependant, à Bounia, aucune activité n'est organisée. Nous sommes allés à l'hôpital général des références de Bounia qui exécute depuis environ 4 ans un projet financé par l'ONG internationale Memis à Belgique. Ici, une vingtaine de malades, essentiellement des enfants, sont pris en charge par une équipe médicale bien rodée, comme l'explique Dr Claude Banga, médecin chef du service de pédiatrie.
Il y a deux volets de prise en charge. Il y a des suivis en ambulatoire, c'est-à-dire des patients qui ne sont pas hospitalisés ici chez nous. Ils sont à domicile, ils viennent pour des contrôles réguliers de leur glycémie, conseils et réagissement de la dose d'insuline. Il y a des patients qui arrivent avec des complications, qui peuvent être l'hypoglycémie ou en stade de coma, qui sont hospitalisés et qui doivent bénéficier d'une prise en charge. Généralement, tout le traitement en rapport avec le diabète est gratuit chez nous.
Difficile pour l'instant de connaître le nombre exact des malades du diabète à Bounia. Pour cause, la plupart refusent de se faire examiner. D'autres, par contre, préfèrent se faire soigner auprès des tradipraticiens. Selon un corps soignant trouvé sur place, le coût des soins par mois peut facilement atteindre 50 dollars américains, un montant qui n'est pas à la portée de tous les malades, nous a-t-il indiqué. Dr Bassara Godefroy estime qu'il y a lieu de prévenir cette maladie.
On doit observer les normes, plus ou moins, de l'alimentation. Il ne faut pas manger aussi trop gras, il ne faut pas manger aussi trop sucré, mais il faut être à la limite. Il faut toujours avoir aussi le temps de faire des gymnastiques, de marcher à pied. Je pense que cela peut aider aussi à dégraisser un peu le corps. Il y a de ceux-là qui prennent aussi des sucres trop, mais ils n'ont pas le temps de se dégager. Mais il n'est pas dit toujours que c'est les sucres qui entraînent le diabète. Il y a aussi des prédispositions génétiques. Nous conseillons seulement aux gens d'avoir un régime plus ou moins équilibré.
Ignace Bingi, membre de la société civile de l'Ituri, invite tout le monde à se faire dépister en vue d'éviter des cas de décès en cas d'ignorance.
À l'occasion de cette journée, nous encourageons tout le monde à passer faire leur contrôle, donc les tests. Le plus souvent, les gens viennent en retard. Des fois, les gens vont dans des structures moins organisées où on leur donne des produits trop sucrés, par exemple des sérums glucosés, et avec ça, ça crée des problèmes. Et des fois, le patient entre même dans le choc, tout simplement parce que le infirmier ou le personnel soignant n'ont pas fait attention pour tester les cas de cycle avant d'administrer d'autres produits.
Signalons que cette structure projette d'organiser une activité relative à cette journée ici à Bounia le 20 novembre en cours. Bounia, Jean-Claude Loki Dilet, Radio Okapi.
L'invité.
L'Office de gestion du fret multimodal a célébré dimanche dernier son 37e anniversaire, un événement qui était placé sous les signes de l'investissement et le redressement de l'OGFREM qui serait en train de sortir de la crise. Cet anniversaire coïncide à Kinshasa avec les 100 premiers jours de la nouvelle équipe dirigeante. Le directeur général Patient Saïba s'entretient à ce sujet avec Daniel Tamizoni.
Patient Saïba, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le directeur général de l'OGFM qui fête aujourd'hui 37 ans depuis son existence et vous, aux commandes de cette entreprise, c'est à peine 100 jours. Quel bilan faites-vous depuis que vous êtes là et c'est quoi la santé de l'entreprise aujourd'hui?
C'est vrai que à l'entreprise des fonctions, nous avons trouvé beaucoup de problèmes. 3 mois d'arriéré des salaires au siège ici donc à Kinshasa. 4 mois dans certaines entités décentralisées, 5 mois dans d'autres. Les impôts n'étaient pas payés, donc n'étaient pas collectés ni reversés, les dettes sociales s'accumulaient, il y avait une tension sociale et un climat de travail délétère, donc beaucoup, beaucoup de problèmes, un cliché type d'une entreprise qui était vraiment en train d'arriver à un état de cessation de paiement. Alors, la première chose, c'était d'abord de faire l'état des lieux. C'est évidemment après avoir fait l'état des lieux que je suis en mesure de vous dire que l'entreprise allait mal et même très mal.
Et qu'est-ce que vous avez fait en 100 jours pour corriger la tendance, remettre les choses sur les bons trains?
La première chose, c'était d'abord de remettre les agents et cadres au travail. Parce qu'il y avait une indiscipline qui ne disait plus son nom ici. Ça, nous avons réussi. La deuxième chose, c'était d'assainir les finances de l'entreprise. Et nous y sommes parvenus parce qu'en 100 jours, nous avons pu accroître les recettes sur la commission 0,5 de 15% et les recettes sur la commission d'intervention de 198%. Donc, c'est quelque chose de fantastique. Et je pense que c'est l'occasion ici de féliciter les agents et cadres qui nous ont accompagnés dans cela.
C'est fantastique, monsieur le dirigeant, je ne veux pas vous interrompre. Comment on est passé jusqu'à 195% de réalisation? Qu'est-ce qui a ajusté? Comment vous expliquez cela?
La première chose d'abord, il fallait que tout ce qui était perçu puisse aller dans les caisses de l'entreprise. Ce qui n'était pas fait avant. Il y a quelques mois, avant notre arrivée, il y avait des recouvrements parallèles. Donc il y a des agents qui allaient percevoir l'argent pour le compte de l'OGFM, mais qui ne les reversaient pas. Alors actuellement, tout ce que nous percevons, nous reversons dans les caisses de l'entreprise. Allez-y comprendre que c'est cet accroissement vertigineux s'explique par le fait que nous avons non seulement amélioré la technique de recouvrement, mais aussi nous avons bouché tous les trous par lesquels s'échappaient les recettes de l'office.
Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon à votre accession à l'OGFM?
L'enthousiasme des agents. Les agents, ils étaient vraiment désespérés et je pense que le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a écouté leur cri de cœur. Ce dont je bénéficie aujourd'hui, c'est l'accompagnement sans faille des agents et cadres. Et ça me donne la force.
Vous avez décliné un plan de redressement de l'OGFM. En quelques mots, qu'est-ce que M. Patient Saïba dit à ses agents et cadres de l'OGFM qui ne sont pas seulement à Kinshasa, mais qui sont à travers la République?
Le plan de redressement a 2 axes majeurs. Le premier axe, d'abord, c'est de pouvoir développer et améliorer les outils de la saisie, de la couverture et de la traçabilité du fret. Parce que nous savons que si nous avons une totale couverture et traçabilité de fret de la République démocratique du Congo, notre fils joue son rôle de conseiller technique en matière de conseil des chargeurs, mais aussi de conseiller technique du gouvernement en matière de transport. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le développement des plateformes logistiques. Nous savons que l'OGFM, c'est le conseil des chargeurs de la RDC. Les chargeurs, ce sont les opérateurs économiques, les importateurs et les exportateurs. Nous devons donc développer des plateformes pour appuyer leurs activités. C'est ainsi que nous avons un projet phare, le POSEC de Kasumbalesa, qui va être en fait une plateforme logistique régionale, qui sera en fait l'extension des ports de l'Afrique australe, dont notamment Walvis Bay en Namibie, Durban en Afrique du Sud, Beira au Mozambique, et Dar es Salaam en République unie de Tanzanie.
Monsieur le DG, vous avez fait quelques promesses sur le plan social. Comptez-vous vraiment les réaliser parce que ces agents et cadres vous entendent à l'œuvre?
Je n'ai pas le choix. Parce que dans le temps, c'est comme ça que les agents et cadres de l'OGFREM vivaient. Donc moi, je vais seulement rendre aux agents et cadres de l'OGFREM ce qu'était leur vie de tous les jours. Ce n'est même pas une imagination ou une innovation. C'est remettre les agents et cadres dans le pristine état. L'OGFREM, c'était l'un des fleurons des entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Mon ambition, c'est effectivement remettre l'OGFREM d'abord sur sa situation d'antan, mais aussi amener l'OGFREM au standard des entreprises internationales. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la mondialisation. Il est très important que l'OGFREM puisse aussi être géré et se comporter comme une entreprise selon les standards internationaux.
Patience Saïba, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
On passe à l'actualité sportive tout de suite. Le rendez-vous de Kanish Mukongo. Bonsoir Kanish.
Bonsoir Pascal Massirika, bonsoir amis sportifs.
Ligue nationale de football, l'INAFOOT, poursuite de la première journée ce mardi dans la zone ouest à Kinshasa.
Le Daring Club Motema Pembe, DCMP de Kinshasa, dominé à ses Rangers par 3-1 ce mardi au stade Père Raphaël de la Kétil, dans les cadres de la première journée du championnat national de football, la division 1. Enoch Matondo a assisté pour nous à cette rencontre.
Chibambe Samu s'est illustré cet après-midi en bourreau pour l'Académie Club Rangers, malgré une bonne entame de jeu par les académiciens. Ce tranche-fuse de Léopard de Dolizy a signé un triplé. D'abord à la 12e minute, servi par Moukoko Amalé, puis à la 52e minute sur pénalty. Malgré le score, la seconde période avait une légère domination des académiciens qui arrivent même à réduire le score par le truchement de tout ici là à la 75e minute de la partie. Aux 10 dernières minutes de jeu, les deux équipes ont multiplié les occasions de but, mais cela n'a pas payé. C'est à la 88e minute de jeu que le même Chibambe arrive à marquer le but de break. Le stade Tata Raphaël exulte. Les supporters du DCMP s'affolent. C'est sur ce score de 3-1 que cette rencontre va se terminer. Du stade Tata Raphaël de la Kétul, Enoch Matondo pour Okapi Sport.
Dans la même zone, on joue demain mercredi deux matchs à l'affiche à Kinshasa. En première heure, chaque 11 SC croise SC Nord Sport du Congo Central. En deuxième rencontre, la Zvita Club fera face à la formation de TP Mulungé de Mbandaka dans la zone Est. Ça sera le démarrage de la deuxième journée. Toujours demain mercredi à Goma, l'équipe locale de l'Est Dauphin Noir va en découdre avec FC Montbleu de Bounia au stade Le Volcan de Biréré dans le même stade. En deuxième match, ça sera le tour de DC Virunga de Goma, DC mesuré à l'AS Maniema Union de Kindu, vainqueur de la Coupe du Congo de football. En tant que provincial de football de Kinshasa Pefkin, le calendrier a été modifié ce mardi. Des matchs prévus cet après-midi ont été renvoyés à jeudi. Le stade étant occupé par le rencontre de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT Bellor Academy, Machera Numangaza, Olympique Club de Kinshasa, Oseka sera face à la jeunesse sportive de Kinshasa et puis FC Système recevra Rojoulou Akikuit. Sende de Massamouna battu ASK 3 par 2-0. La deuxième rencontre, Vutuka Lamine, Motema Pembe par 3-0. En basketball, les jours se suivent et se ressemblent pour les deux clubs de la RDC au championnat d'Afrique de clubs champions féminins Angola 2017. Un groupe A avec club de la RDC a perdu ce mardi soir face à Equity Bank de Kenya par 62-67. Un match de la quatrième journée de la phase des groupes du championnat d'Afrique du champion féminin basketball. Et puis en groupe B, DCMP de Kinshasa s'est incliné devant Kenya Port Authority KPA par 51-57. Voilà Pascal Massirka.
Merci Kanish Mukongo. Avant de boucler la boucle, terminons par le taux d'échange indicatif de la Banque Centrale du Congo pour ce mardi. Notez que le dollar américain s'achète à 1577 francs congolais et se vend à 1609 francs congolais. Le rappel des principaux titres avant de vous quitter. Honore qui vous, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale menace d'arrêter ceux qui tenteraient de manifester demain pour réclamer l'alternance au pouvoir à RDC. La société civile ne l'entend pas de cette oreille et même maintient son mot d'ordre de sit-in à organiser demain mercredi. En Ituri, un soldat a été tué dans une embuscade tendue par la FRPI hier soir à Singo, au sud de Bounia. Selon le porte-parole des FRDC dans la région, c'est le 9e soldat des FRDC tué par ces miliciens dans les mêmes circonstances en l'espace de mois. L'OGFREM vient de souffler sur 37 bougies d'anniversaire, un événement placé sous les signes de l'investissement et le redressement de l'entreprise qui sort de la crise, annonce faite à l'occasion par le DG Patient Saïba. Fin de ce journal, merci d'avoir écouté.